Écoutez le monde changer. Europe 1 Sport.
Avec Lionel Rosso sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravi de vous accueillir sur Europe 1, Europe 1 Radio Ouverte et le service des sports d'Europe 1 mobilisé. On continue de vous accompagner, bien sûr, pas de compétition, mais une actualité sport très dense autour de cette crise du Covid-19. On va en parler avec nos experts que je vous présente dans quelques instants, mais sachez d'ores et déjà que nous aurons deux stars du foot, deux internationaux français dans notre émission ce soir. Dans quelques instants, on sera en ligne avec Bafétimbi Gomis, l'international français ex-joueur de Saint-Etienne, Lyon, Marseille, qui est aujourd'hui en Arabie Saoudite, confiné également. Il nous parlera de son confinement et on reviendra aussi sur sa carrière, notamment en Ligue 1. On sera un petit peu plus tard aussi aux alentours de 21h avec Thiemier Bakayoko, le milieu de terrain international de Monaco, confiné lui en principauté, et il a des projets pour aider le personnel de santé et pour aider à sortir de la crise du coronavirus. On en parlera avec lui donc dans quelques instants. Mais jusque-là, d'autres débats aussi à suivre en compagnie de notre consultant en direct, Alain Roche. Bonsoir Alain.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Bonsoir à tous.
On est ravis de vous retrouver aux côtés de Javier Prieto Santos de SoFoot. Salut Javier.
Salut à tous, bonsoir Lionel.
Jean-François Pérez, le chef du service des sports d'Europe 1. Salut Jean-François.
Salut Lionel, salut tout le monde.
Et Cyril de la Morinerie, expert football du service des sports d'Europe 1. Salut Cyril.
Salut Lionel, salut à tous.
Avec vous dans quelques instants, on va parler de l'exemplarité des sportifs, des footballeurs notamment, mais pas uniquement, entre baisse de salaire et dons généreux, mais également, il faut montrer l'exemple. Est-ce que Keylor Navas, le gardien du PSG, a montré l'exemple en quittant la France pour rejoindre son pays avec sa famille au Costa Rica? Partir au Costa Rica avec un avion privé qui a coûté 200 000 euros. On en parlera dans quelques instants avec nos experts. On évoquera aussi la Ligue 1 qui peut peut-être sombrer à cause des droits à télé. Vous le savez, le diffuseur, l'un des diffuseurs, Canal+, refuse pour l'instant de payer les droits télé qui lui incombent puisque la saison n'a pas lieu pour des matchs donc qui n'ont pas été produits et qui n'ont pas eu lieu. Cela peut mettre vraiment financièrement le championnat de France, la Ligue 1, en difficulté. On en parle dans quelques instants avec nos experts. Et puis dans nos débats, on reviendra aussi sur la disparition de Michel Hidalgo et surtout ce foot, le foot qu'il aimait tant, le foot romantique qu'il faisait pratiquer. Est-ce que ce foot existe encore aujourd'hui? Un football plus athlétique, plus physique que celui de Michel Hidalgo qui aimait le jeu et qui aimait surtout la technique. On partira également après 21h en Italie, en Belgique, en Allemagne pour prendre des nouvelles des footballeurs dans ces pays. Comment traversent-ils la crise du coronavirus? Et puis à partir de 22h, un point également dossier avec Corinne Boulou sur les Jeux Olympiques de Tokyo qui ont été reportés à 2021. On terminera l'émission comme chaque samedi et comme chaque dimanche avec les bons conseils sport à la maison de notre coach préféré, Jean-Claude Claude Perrin, qui sera avec nous. Mais avant nos grands débats, et comme promis, tout de suite sur Europe 1 Radio Ouverte, Bafé Gomis nous donne rendez-vous en Arabie Saoudite. C'est tout de suite. L'invité exceptionnel d'Europe 1 Sport ce soir, l'invité football, c'est Bafétimbi Gomis qui est avec nous. Bonsoir Bafé Gomis.
Bonsoir, bonsoir à tous.
On est ravis que vous ayez accepté notre invitation. On avait envie de parler avec vous, de parler foot, évidemment, de parler ballon, mais de parler aussi de ce confinement auquel vous êtes contraint en Arabie Saoudite, puisque vous êtes attaquant aujourd'hui à Al Hilal, et pour vous aussi, bien c'est le confinement. Dans quelles conditions se déroule ce confinement face à la crise du coronavirus?
Très bien, très bien. Comme partout ailleurs, on est confiné à la maison. On a eu pour consigne d'éviter toute interaction sociale, donc on reste chez nous afin de protéger se protéger et protéger les autres. Après on a chacun un petit programme individuel à faire un peu chaque jour, un peu de sport quotidiennement, et afin de rester compétitif, avoir une bonne condition pour suite de la compétition, rester compétitif.
Comment vous arrivez à passer le temps au-delà du programme? Vous passez un peu de temps avec les proches, avec des jeux. Comment vous arrivez à tuer le temps? Parce que c'est aussi ça, cette difficulté de confinement.
On se recentre sur l'essentiel, sur sa vie de famille, sur soi-même. Essayer de se poser aussi, de se remettre en question. Voir aussi l'évolution du monde, parce que on peut se rendre compte que que rien n'est acquis. Et aujourd'hui, on voit que tout ce qu'on pensait invulnérable, que ce soit nos industries, nos championnats, tout ça montre que nos économies montrent que on reçoit une belle leçon de l'humanité et une belle leçon qu'on doit tirer parce que rien n'est acquis et ça fait mal, mais bon, de voir le monde, surtout moi qui suis à l'étranger, les images que je vois de la France, ça me touche de voir ce qui nous arrive, mais essayons de ressortir plus fort de cette crise sanitaire.
Oui, et on se rend compte effectivement qu'on est peu de choses et que la France fait partie des pays les plus touchés par le coronavirus. En Arabie Saoudite, quelle est la situation autour de vous? Là aussi, c'est le confinement, j'imagine. Vous êtes à Riyad actuellement.
Bien sûr,
quelles sont les conditions?
C'est le confinement. Après, comparativement au reste du monde, c'est un pays qui a été très peu touché proportionnellement, encore une fois, au nombre de cas dans les autres pays. Après, notre gouvernement a vraiment pris ce problème très, très, très au sérieux, en prenant des décisions très fortes dès le début, parce qu'ayant pour épicentre un pays frontalier, où il y a eu de nombreux cas, les fermetures des frontières, le fait de rester chez soi afin de protéger et éviter cette propagation du virus a été mise en demeure très, très, très vite. Et on voit que ce qu'on privilégie, c'est vraiment la santé et ça prévaut surtout.
Évidemment, il y a la proximité de l'Iran, comme vous le disiez, qui a fait peut-être prendre des décisions extrêmement rapides de la part de l'Arabie Saoudite. J'aimerais qu'on parle un peu foot quand même avec vous, Bafé Gomis, parce que c'est aussi ça qui nous fait exister, qui nous fait rêver et qui vous permet de continuer à faire votre métier. Avant de revenir sur votre carrière en France notamment, j'ai le sentiment, avant que toutes les compétitions soient suspendues, que vous vous éclatez en Arabie Saoudite, dans votre club de Al Hilal. Vous marquez toujours beaucoup de buts, ça c'est très très bien, mais que vous passez de très bons moments.
Oui, bien sûr, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une riche carrière, de jouer pour de nombreux clubs, et en Arabie Saoudite, c'est vrai que j'ai la chance de jouer pour le plus grand club d'Asie. On vient de remporter cette Ligue des champions asiatiques. Et puis, on était, jusqu'à que ce virus nous contraint à arrêter, on était premier avec 6 points d'avance. Et c'est vrai que j'ai toujours le sens du but. Donc, c'est bien. C'est une bonne chose. Et je suis bien content de vivre cette belle expérience en Arabie Saoudite.
Effectivement. Vous avez envie que les compétitions reprennent, que ce soit en Arabie Saoudite ou partout dans le monde, et en France notamment, vous faites partie de ceux qui veulent absolument que ça reprenne?
Non, je fais partie de ceux qui veulent que ça reprenne, à une seule condition, que tout le monde ait une santé, parce que je pense que le football, dans ces cas-là, c'est secondaire. Et je tiens aussi, pendant cette interview, à remercier, à féliciter nos personnels soignants qui sauvent des vies, essayant de faire en sorte que tout le monde soit en bonne santé, parce que je pense que c'est la meilleure des choses. Encore une fois, le football, c'est secondaire. Le football n'aurait pas cette place s'il n'y aurait pas ce public, et ce public est forcément ceux qui sont aujourd'hui en première ligne, malades. Et voilà, aujourd'hui, c'est à nous, footballeurs, de faire passer des messages via nos réseaux sociaux, vu qu'on est des personnes publiques, afin que de protéger toute la population et montrer que voilà, on peut être aussi là pour les personnes plus vulnérables.
Vous pensez que les footballeurs, les sportifs de haut niveau, donc les célébrités également, ont un devoir, une obligation d'être en lien avec le grand public, justement pour traverser cette crise-là, une responsabilité?
Bien sûr, parce qu'on est des citoyens du monde, peu importe le pays, peu importe aujourd'hui la crise qu'on traverse, la crise sanitaire, touche toutes sortes de personnes. On voit tout récemment une jeune fille de 16 ans qui a été décédée, qui a succombé au coronavirus, mais il n'y a pas de riches, pas de pauvres, il n'y a pas de classe sociale. Et c'est à nous, en tant que personnes publiques, d'être le relais de notre gouvernement pour faire passer un message. Et je pense que ce message a été très bien intégré par mes confrères. On voit dans de nombreux pays des footballeurs prêter main forte aux hôpitaux ou qui font diverses actions. Et je pense que c'est plus important. Et essayons de sortir de cette crise plus forte et dans cette société pardon, qui devenait de plus en plus égoïste. Tout le monde regardait devant sa porte. Ben, je vois des mouvements où ben, des personnes font des courses pour des personnes âgées. On voit des habitants dans des immeubles faire le ménage dans les parties communes. Et je pense que c'est un élan de solidarité qu'il faut continuer. Et regarder aussi tout ce qui se passe ailleurs que chez soi.
Il y a un vrai devoir d'exemplarité de tout le monde, des footballeurs, des sportifs, mais également de toute la population, de tous les citoyens. Vous avez bien raison, Bafé Gomis, de le préciser. Vous êtes toujours aussi en lien avec des proches, des amis en France, puisque j'ai l'impression que vous suivez bien l'actualité française également. Comment vous avez réagi, tiens, notamment, je sais que vous êtes très proche de Blaise Matuidi, quand on a appris que Blaise avait été contrôlé positif à ce fameux virus, heureusement asymptomatique. Quelle a été votre réaction ?
Ben, j'ai compris que ça pouvait arriver à tout le monde parce que ben, Blaise est un confrère et je pense que dans nos clubs respectifs, on est très bien protégés, même si on est exposé de paraître le fait d'être des personnes publiques. Je l'ai eu au téléphone, je l'ai appelé, il m'a rassuré sur son état de santé et il m'a tout de suite dit de faire en sorte que de rester confiné, même si à l'époque en France on n'était pas encore en confinement total, de faire attention parce qu'en Italie ils avaient de l'avance sur la France et sur le reste du monde et que ce virus allait avoir des conséquences dramatiques sur toute la population.
Évidemment, si on revient sur votre carrière, Bafé Gomis, vous avez évidemment joué dans beaucoup de clubs, en Angleterre, en France bien sûr, mais également en Turquie, qui était votre club précédent, votre pays, effectivement, vous avez été champion. Est-ce que c'est le moment le plus fort, le plus intense de votre carrière par rapport à l'adoration dont vous avez fait l'objet ?
C'est un des moments, ouais. C'est vrai que j'ai eu un feeling dès le début, dès cette arrivée à l'aéroport où environ 5000 personnes est venue m'accueillir à l'aéroport après une belle année à Marseille. Je garde un lien fort avec ce peuple, ce public, ce club de Galatasaray, ce pays. Et non, c'était vraiment un grand moment de ma carrière, surtout de la générosité et l'amour qu'a les Turcs pour leur club respectif. On m'a toujours dit qu'en Turquie, quand tu donnes un, on te donne deux. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire. Et c'est vrai qu'on m'a donné beaucoup, beaucoup, énormément d'amour durant cette année. J'ai pas beaucoup joué. J'ai joué qu'une année à Istanbul en étant champion. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir joué plusieurs années pour ce club. Chaque fois que j'y m'y rends, parce que je vais souvent à Istanbul. Et c'est vrai que voilà, ils m'ont pas oublié, je suis resté dans leur cœur et c'est aussi pour ça qu'on joue au foot.
Évidemment, vous avez marqué 32 buts avec Galatasaray, c'est effectivement un bilan formidable. Alors vous n'y avez passé qu'une saison, vous avez gardé de bons souvenirs. Vous n'avez passé qu'une saison aussi à l'Olympique de Marseille, Bafé Gomis, où vous marquiez des buts, vous êtes parti. On n'a pas trop compris d'ailleurs pourquoi vous avez dû quitter le club. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à ça, sur le fait que Marseille vous ne vous a,
non,
vous
je
vous
n'ai pas,
a fait totalement
je n'ai pas
confiance.
De regrets. Je n'ai pas de regrets. Vous savez, Marseille, c'est le plus grand club français. Tu ne sais pas ce que c'est la pression tant que tu n'as pas signé. Je pense que c'est pas un club qui est fait pour tout le monde. Et ça, souvent, les dirigeants l'oublient. C'est le seul club un des seuls clubs au monde où tu ne signes pas ton contrat avec les dirigeants, mais avec leur public, et tu dois leur rendre. C'est le public qui te fait signer ce contrat et tu dois leur rendre des comptes sur la pelouse. Mais voilà, et puis les Marseillais ont un lien très 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 fort avec leur club. Et souvent, le lendemain des défaites, on le ressent sur l'humeur des Marseillais, parce qu'ils ne vivent que pour qu'une chose, et c'est ce ballon, et pour l'OM. Donc voilà, c'est une grande famille, un grand club, et j'en garderai à jamais un grand souvenir de pouvoir avoir mis cette première pierre du projet McCourt.
N'avez-vous pas l'impression néanmoins que les dirigeants se sont trompés en ne vous retenant pas? Vous aviez marqué un peu plus de 20 buts en une saison à Marseille.
Non, parce que moi je dirais pas qu'ils se sont trompés, parce que encore une fois, j'étais prêté. Le projet pour lequel j'étais venu, c'était pour me relancer ma carrière, chose qui a été faite. Et puis après, ils n'avaient pas la main sur ce transfert. Il y a eu des choix qui ont été faits, qui ont été différents. Mais aujourd'hui, voilà, on voit un Olympique de Marseille second. On juge un projet sur le long terme. On ne faut jamais juger un projet sur le court terme. Et ils sont venus s'installer sur la durée. Et aujourd'hui, on voit un Marseille second, voilà, qui ont appris des erreurs qui ont pu être commises auparavant, mais qui ne fait pas des erreurs. Tous les projets qui ont vu le jour ces dernières années, sans citer de clubs, ont commis peut-être des erreurs, mais ça n'a pas empêché à l'Olympique de Marseille de continuer sa marche en avant, parce que voilà, il y a un public, il y a des attentes qui sont fortes à Marseille, et personne n'est irremplaçable.
Quel regard vous portez sur la Ligue 1, sur le niveau de la Ligue 1 aujourd'hui? Alors il y a évidemment la suprématie du Paris Saint-Germain, vous l'avez dit, Marseille qui est deuxième, et puis des équipes derrière qui se bagarrent, comme Rennes, à un degré moindre comme Lyon, où vous êtes passé notamment. Vous suivez encore la Ligue 1, j'imagine, depuis l'Arabie Saoudite?
C'est un championnat très 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 ouvert. Nous avons tous vu des très beaux matchs cette année, même si tout laisse à penser que Paris va remporter encore cette Ligue 1. Marseille fait un super parcours, revient de loin après une année où ça a été difficile. J'aimerais que voilà, qui sont aujourd'hui dans la difficulté, comme Lyon, comme Saint-Étienne, qui sont mes anciens clubs, remontent et jouent et se battent pour ces places qualificatives. Mais bon, voilà, il y a aussi des clubs comme Rennes qui ont fait du gros travail, même si aujourd'hui le président Létang est parti, mais c'est un club qui continue sur la lignée, et ce président a amené à ce club breton, voilà, c'est une autre mentalité. On voit aujourd'hui que Rennes titille ses places européennes chaque année après avoir gagné ce trophée, donc c'est une bonne chose, c'est de bon augure pour notre championnat qui est un championnat qui fournit chaque année, même si aujourd'hui la moyenne d'âge a baissé, parce que c'est le football qui veut ça, mais c'est un championnat qui fournit chaque année de très très grands joueurs prometteurs. Aujourd'hui, on peut le voir aujourd'hui à Rennes avec le petit Kamavinga qui est un exemple pour tous les jeunes de son âge. Si on voit Lyon qui sort énormément de jeunes, on voit aussi de la jeunesse à Saint-Étienne, ce qui explique aussi ses attentes élevées. Parfois trop élevé pour des jeunes qui sont en devenir, qui deviendront des grands joueurs par la suite.
Merci Bafétim Bigomis. On aimerait parler encore des heures avec vous, parce que c'est vraiment passionnant. Vous avez beaucoup de recul sur les choses, sur la vie, sur la carrière.
C'est un plaisir, merci. Et puis, voilà, un grand big up, un grand merci à tous ces aides-soignants qui sont en première ligne, essayant de rester bien confinés afin que ce virus soit juste dans quelques mois ou quelques semaines un lointain mauvais souvenir.
On espère vous voir revenir très vite sur les terrains après cette session et ce confinement. Bafé Gomis, et continuer à marquer des buts, des quadruplés, boire des cafés également quand vous célébrez vos buts. Ce sont des images qui restent dans tous les esprits. Merci infiniment Bafé Gomis d'être venu sur l'antenne d'Europe 1. À très vite, portez-vous bien, et tous vos proches également. À bientôt Bafé.